Un couvre-feu a été décrété ce vendredi après une brève intrusion dans la zone verte des manifestants réclamant des réformes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez l'Amérique et vous, nous émettons depuis Washington DC, la capitale des États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Georges Léonard Sagno assure la mise en onde de ce programme. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Ce soir, nous parlons d'un phénomène qu'on observe depuis plus d'une décennie, à savoir que les Africains francophones, qui jadis faisaient de la France leur destination favorite, tournent de plus en plus le dos à ce pays, préférant aujourd'hui venir aux États-Unis. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique ce phénomène? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-31-40. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Et pour nous accompagner au cours de cette émission ce soir, nous avons comme invité Luc Emayou. Luc Emayou est journaliste et président du Club de l'information africaine. Il est en direct avec nous depuis Paris. Luc Emayou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité. Vous restez avec nous le temps d'accueillir nos autres invités. Elles sont toutes des dames et j'espère, Luc Emayou, qu'elles ne me feront pas le procès de vous avoir accueilli en premier. Angèle Kouémo, bonsoir.
Bonsoir, John Lyndon.
Vous vivez ici aux États-Unis et vous voyagez beaucoup entre les États-Unis et l'Afrique. Vous êtes présidente de Believe in Africa. Et vous venez de publier un livre, me disiez-vous. En quelques secondes, de quoi parlez-vous dans ce livre?
C'est un livre qui s'appelle Against All Odds, How to Stay on Top of the Game. C'est un manuel de leadership dans lequel je partage mon expérience professionnelle et culturelle et sur la base desquelles je retire des conseils que je donne aux leaders émergents, aux gens qui veulent avoir à peu près le même itinéraire que moi, aux entrepreneurs et surtout aux femmes et aux jeunes filles.
Voilà, donc vous nous parlerez de cette expérience-là, notamment en ce qui concerne la France, où vous avez vécu. Notre troisième et dernier invité, c'est Sokhna Natambay. Sokhna, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir à tout le monde.
Voilà, Sokhna Natambay est journaliste et correspondante de VOA Afrique à Dakar. Donc, je vais commencer par Luc Emayou. À votre avis, pourquoi la France n'attire-t-elle plus les Africains francophones qui préfèrent de plus en plus les États-Unis?
Il se passe aujourd'hui en France un phénomène que plusieurs jeunes Africains ont remarqué, c'est déjà au niveau de l'accueil dans les ambassades de France, dans nos pays. L'accueil n'est pas toujours très hospitalier, pas très respectueux des demandeurs de visa. Et une fois que vous êtes arrivé en France, au niveau de la préfecture de police pour établir votre titre de séjour, ce n'est toujours pas gagné. Et le plus difficile, c'est qu'on a depuis 2002 une montée du Front National, le parti d'extrême droite français, qui est très forte. Et qui reste fort parce que même aux dernières élections régionales, ce parti qui n'avait pas d'élus sur le plan régional en a quand même engrangé quelques-uns, y compris à Paris. Et donc aujourd'hui, la France est tiraillée entre cette volonté et de respecter les accords européens et de contenir sa propre migration mais surtout, et c'est le président français de 2007 qui le rappelait dans une tribune, elle a peur aujourd'hui que, à côté des bombes des terroristes, la bombe démographique que représentera la croissance démographique du continent africain soit une menace pour son équilibre.
Alors, Angèle Kouemo, vous avez vécu pendant près de 15 ans en France et cela fait bien longtemps que vous êtes installée aux États-Unis. Déjà, pourquoi vous avez décidé de venir aux États-Unis et qu'est-ce qui fait la différence avec cette France que Louis Kemayo décrivait tout à l'heure?
C'est vrai que le scénario que lui a décrit est tout à fait d'actualité. Mais dans mon cas, lorsque je pars, décide de partir du Cameroun pour l'étranger, donc le choix de rentrer en France ne se présente même pas, puisque j'étais plus ou moins convaincue, je pense que j'ai convaincu à raison, hein, que je n'aurais pas la possibilité d'exploiter mon potentiel dans un contexte français où il y a une grosse différence entre être noir, être africain, être antillais, être catholique, protestant, clair de peau ou noir foncé. Alors qu'aux États-Unis, c'est un pays de multiples où le rêve est possible, et puis c'est un pays de communauté qui accepte les différences. Alors, c'est pour cela que mon choix s'est porté sur les États-Unis, et j'ai vécu cette différence-là depuis 15 ans où je vis ici.
Alors, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez été bien accueilli?
Oui, puisque même au niveau des... Par rapport, si il faut comparer avec les procédures administratives en France et l'accueil que les immigrés reçoivent à la préfecture, aux États-Unis, c'est totalement différent puisque c'est une terre d'immigrés. Donc, même les officiers de l'administration américaine, des fois, sont des immigrés eux-mêmes. Donc, en général, ils sont plus ou moins chaleureux, même si les procédures d'immigration ne sont pas toujours aussi ouvertes qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans.
Tout à fait. Alors, Sogna, le rêve d'une bonne partie des jeunes en Afrique est de partir à l'étranger et de préférence aux États-Unis. Quelle est la tendance au Sénégal en ce moment?
La tendance au Sénégal, John, je pense que c'est la même que dans plusieurs pays de l'Afrique. Comme l'a dit le premier invité tout à l'heure, le problème se pose déjà sur place. Par exemple, je vais parler du cas du Sénégal, puisque c'est le pays que je connais le mieux, je vis ici. Alors, pour avoir le visa, c'est tellement compliqué avec la paperasse et tout. Alors, finalement, ça complique. Finalement, ça décourage les jeunes, parce qu'on vous demande des tas de papiers à fournir, et également de l'argent que tu vas probablement perdre si tu n'arrives pas à avoir le visa. Alors, en dehors de ça, c'est comme si la France ne voulait pas que tu viennes chez elle. Voilà. Donc, c'est ce qui décourage déjà les jeunes. Alors, il y a autre chose, également, la France, qui, depuis quelques temps, en France, il y a des discours très racistes, très xénophobes qui émergent depuis quelques temps. Et les discours de la gauche n'ont fait que conforter ces jeunes-là dans leur position, à savoir que la France est un pays raciste. Beaucoup de jeunes, en tout cas, le voient ainsi. Et donc, ils préfèrent les États-Unis, le Canada. Les États-Unis, par exemple, c'est un pays de multiples. Il y a toutes les races, il y a les noirs, il y a les jeunes, il y a les blancs. Alors là, il y a une facilité pour s'intégrer et tout. Alors qu'en France, c'est tellement difficile parce qu'en France, les gens disent « si t'es pas blanc, t'es pas français de souche ». Donc voilà, ce sont des termes que j'utilise et que les jeunes voient à travers les médias, à travers les médias, les réseaux sociaux. Et franchement, ça décourage.
Alors, merci à vous. Hein. On reste en contact. On va prendre une réaction sur Facebook. Elle est de Grady Baoula. Il dit « Écoutez, les jeunes africains aiment le prompt épanouissement ». La France, jadis, offrait aux immigrés tout ce dont ils avaient besoin, la paix, le social, mais elle s'est transformée en un lieu de crainte où il y a beaucoup d'homicides ou d'attentats et la vie est devenue plus dure qu'autrefois. Difficile de trouver les papiers. Une autre réaction, celle de Jacques Mouwundu Vilirendi. Il dit « Aller en France est devenu ordinaire. Il faut sortir de l'ordinaire, découvrir des nouveaux horizons avec davantage d'opportunités d'études ou de travail. » On va prendre Salif Keita, un auditeur. Bakary Keita, autant pour moi au téléphone, depuis Bamako. Bakary, bonsoir.
Oh, bonsoir.
Alors, pourquoi les jeunes francophones, ou tout au moins les francophones, veulent venir aux États-Unis plutôt qu'en France?
Oui, vous savez, dans un premier temps, nos compatriotes quand même étaient tentés pour aller quand même leur chance en France. mais seulement ils se sont dit qu'une fois en France, on n'est pas tranquille. Du jour au lendemain, vous pouvez être expulsé quand même pour faute de papiers. C'est ce que vous voyez. Mais maintenant, une fois, pourquoi beaucoup quand même préfèrent aller au pays de l'oncle Sam? Cela est dû à une très grande liberté, parce qu'une fois, si vous foulez quand même le sol américain, c'est la tranquillité totale, la liberté totale. Vous pouvez être inquiété, sauf si vous commettez vraiment un crime vraiment, ou bien d'autres problèmes. Sinon, quand même, aux États-Unis, c'est la liberté totale. Une fois arrivé là, vous pouvez même déposer votre passeport à la maison, quoi, et vous promener. Donc, cela veut dire que c'est la liberté totale.
Ben, c'est effectivement cela. Je vais prendre une autre réaction, celle de Keza Khalid. Il dit « Aujourd'hui, la plupart des Africains préfèrent venir s'installer aux États-Unis juste pour réaliser leurs rêves parce que c'est la terre des opportunités. » Louis Kemayo, au plan strictement géopolitique, est-ce que la France n'est pas en train de perdre du terrain comparé aux États-Unis dans ses anciennes colonies?
Ben, elle a perdu du terrain, parce qu'aujourd'hui, quand on voit au niveau des interventions militaires, entre les années 60 et la montée de tous les djihadismes que l'on connaît aujourd'hui sur le continent africain, la France n'avait pas besoin d'alliés pour intervenir, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit au Tchad ou n'importe où ailleurs, la France intervenait seule. Puis après, il y a eu la chute du mur de Berlin. La France a eu l'impression que l'Afrique ne pesait plus beaucoup pour elle, dans les échanges internationaux. Elle est allée chercher de nouveaux partenaires en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Asie. Et ce terrain qu'elle a laissé vierge, de nouveaux partenaires sont venus s'y installer. Outre les Américains, on a aujourd'hui tous les nouveaux pays émergents, que sont la Chine, le Pakistan, le Brésil et bien d'autres pays encore, qui sont venus s'installer et ont accompagné les pays africains au moment où ils en avaient le plus besoin. Parce que quand, en 1986, juste avant la chute du mur de Berlin, on entend le président Mitterrand conditionner l'aide publique au développement, qui n'est pas déjà très importante,
elle
ne fait pas encore 0,7% du PIB de la France. Donc quand il décide de conditionner cette aide-là au degré de développement, c'est un réel désengagement financier de la part de la France et de certaines entreprises françaises. Et donc, à ce moment-là, les dirigeants des pays africains ont besoin d'espèces pour joindre le bout à la fin du mois. Et donc, les partenaires qu'ils ont trouvés leur apportaient de l'argent, la plupart du temps, sans conditionnalité.
Voilà.
Ces nouveaux partenaires ont pris un terrain que la France avait laissé vierge. Et donc, aujourd'hui, elle essaie de reconquérir le terrain, mais le terrain n'est pas en jachère.
Voilà. Angèle Kouemo, vous avez réussi à vous intégrer aux États-Unis. Vous avez, par exemple, travaillé au Congrès pendant des années. Est-ce que vous auriez eu les mêmes opportunités si vous étiez resté en France?
Là, je vous dis absolument non. Mais ce n'est pas un non tout à fait catégorique, puisque on a vu des Noirs longtemps après qui ont commencé leur carrière dans le Sénat, comme Ramaya, il me semble qu'il a travaillé au Parlement français avant d'émerger, mais ça reste un cas isolé. Mais aux États-Unis, c'est clair que je n'aurais même pas eu cette opportunité-là dans un contexte français. Oui.
Oui, allez-y. Vous parliez de Ramaya. Est-ce que c'est pas juste pour colorer un peu la classe politique?
C'est pas des motivations totalement différentes.
Tout à fait.
Cette opportunité-là lui a été présentée. Mais ici aux États-Unis, bon. Lorsque je commence là-bas au Congrès en 2005, on peut compter les Africains du doigt de la main. Et en général, c'était des Africains plus ou moins assimilés, nés de, issus de seconde génération à peu près. Mais les conditions de mon entrée étaient purement professionnelles. La décision n'a pas été motivée par le fait que je sorte de telle ou telle famille naturelle ou même politique. Ils ont eu besoin de mon expertise et puis la question n'était pas posée. Et ce qui n'arriverait presque jamais en France. Bon, là maintenant, 15 ans plus tard, il y a une trentaine d'Africains qui travaillent au Congrès et c'est pareil. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils constituent une grosse minorité. Hein. Il y a 20 000 employés dans le Parlement. Chez les 20 000, il y a peut-être 5% de Noirs. Et chez les 5% de Noirs, il y a 0,01%. Sinon, même un peu moins quoi, d'Africains. Ça reste des cas totalement isolés, mais le contexte américain est très ouvert il est beaucoup plus ouvert que le contexte français dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le milieu politique, dans le privé. Ce qui compte pour l'oncle Sam, c'est « How much are you bring on the table ?»
Voilà. Alors, nous avons la réaction de Dange Kasongo qui dit, je fais la traduction parce qu'il a écrit en anglais, évidemment, il dit « Très vrai, nous avons passé beaucoup de temps à apprendre une langue inutile, qui est le français. Je regrette pourquoi je suis parti apprendre le français. » Alors, cela m'amène à poser à Sogna une autre question. Évidemment, pour venir aux États-Unis, l'anglais est indispensable. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'apprentissage de la langue anglaise au Sénégal?
Si, je trouve qu'il y en a parce que déjà, il faut remarquer qu'il y a plusieurs établissements qui proposent d'apprendre l'anglais au Sénégalais, plus français, le français, c'est la langue au Sénégal. Mais maintenant, les Sénégalais sont conscients d'un fait. C'est-à-dire que le français s'arrête, ils se disent que le français s'arrête à l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor, c'est-à-dire à l'aéroport de Dakar. Donc, tout de suite, le Sénégal, tu as besoin d'avoir l'anglais en poche. Parce que dans plusieurs pays, c'est vrai qu'il y a l'espagnol, il y a l'italien, mais en anglais, tu risques jamais de te perdre. Donc, voilà, c'est une langue qui est indispensable en ce moment. Donc, les Sénégalais sont plus enclins à apprendre l'anglais que le français. Ils se le disent déjà. Même quand il y a des discussions ici, il y a même des concours à la télévision nationale ou dans des télévisions privées où des jeunes viennent concourir en anglais ici. Tout ça pour faire la promotion de l'anglais. Mais également pour montrer à quel point le français est en train de perdre du terrain. Ici, le Sénégal, qui est une ancienne colonie française. Alors, les États-Unis vont bientôt avoir une base militaire au Sénégal. Donc, il y a déjà ça. Alors voilà, donc l'État du Sénégal et l'administration Obama vont bientôt, je pense, définir les contours d'une telle coopération. Il y a déjà ça, il y a déjà une ambassade américaine qui est beaucoup plus grande, qui a beaucoup plus de tentacules, qui a beaucoup plus d'avantages que l'ambassade française qui est là depuis des décennies. Il y a ça aussi. Donc, et la jeunesse sénégalaise est vraiment en train d'apprendre l'anglais, de faire
voilà.
Des efforts énormes.
Voilà, vous parlez de l'apprentissage de l'anglais et je signale à nos auditeurs que pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, il y a English USA qui est diffusé sur VO Afrique tous les jours à 21h05 TU. Alors, je vais prendre Youssouf Ouédraogo au téléphone. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir John Linden, nous invités à la rédaction aux auditeurs de VO Afrique.
Alors, on vous écoute pour ce thème de ce soir.
Alors, écoutez, John Linden, moi je pense que cela témoigne tout simplement de la discrimination et du racisme, si j'ose dire ainsi, qui règne à mettre sous silence en France. Aussi, il y a la culture française qui est de plus en plus remise en cause dans les États francophones d'Afrique avec la génération montante qui entend pouvoir jouir pleinement de son indépendance, parce que ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, au-delà donc de l'image que présente la France devant les caméras du monde entier, il faut dire que sa politique africaine ou étrangère reste un échec honteux. Jusqu'à preuve du contraire, vous remarquerez que les États de l'Afrique anglophone sont nettement au-dessus des États de l'Afrique francophone en termes de développement et de démocratie, si vous voulez, ou de démocratie vraie, du respect des droits fondamentaux, même si quelques États font l'exception de ce constat vérifiable. Donc moi, je dirais pour finir que c'est bien beau d'apprendre le français ou de parler le français, mais c'est encore mieux de parler l'anglais ou d'adopter la culture anglaise.
Alors, on a cette réaction de Junior Bombongo qui dit « Ce phénomène est dû à la perte des vitesses du français par rapport à la langue anglaise dans le marché de l'emploi. Le discours hypothétique du président français François Hollande, je cite, « Le temps de la France-Afrique est révolu. » Est révolu, voilà. Louis Kemayou, est-ce qu'il y a des possibilités que la France change et qu'elle essaye de charmer encore plus les Africains, ou c'est perdu totalement?
Je ne voulais pas dire, il ne faut jamais dire jamais. C'est toujours compliqué de se prononcer sur ce genre de situation. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la cote de la France a énormément baissé auprès des Africains, qu'ils vivent en France ou qu'ils vivent sur le continent. Et les dernières interventions militaires de la France ne sont pas là pour lui rendre service. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire avec le renversement
de Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara qui lui a succédé. Prenez le cas de la Libye où on a détourné une résolution des Nations Unies pour aller descendre, assassiner le président d'un pays étranger. Toutes ces interventions-là ont laissé des traces très importantes aujourd'hui au sein de la population. Et par-dessus tout, je vous rappelais tout à l'heure que depuis 2002, il y a une vraie montée de l'extrême droite française qui n'a pas besoin forcément d'exercer le pouvoir en France aujourd'hui pour que ses idées se diffusent dans la population. Cela s'est appelé la droite décomplexée et c'est devenu aujourd'hui une attitude quasi normale. Observez le paysage médiatique français, les intellectuels de gauche qui sont présentés comme des humanistes, qu'ils soient communistes, socialistes ou verts, aujourd'hui on ne les entend plus dans les médias. C'est quand même un signe assez, assez dangereux de la dérive droitière, voire extrême droitière, que la France connaît. Et aujourd'hui, vous ajoutez à cela le phénomène des migrants dû à la guerre en Syrie, la place des Africains est plus que difficile. Donc c'est difficile aujourd'hui de se prononcer, mais je pense que dans le cœur des Africains, regardez, on a quand même un gouvernement de gauche socialiste au pouvoir. Ouais. Il n'y a pas un seul représentant de l'Afrique subsaharienne.
Tout à fait. Alors, vous restez avec nous, on va prendre une petite pause et on fera le dernier tour de table.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Nous parlons ce soir du fait que de ce phénomène qui pousse de plus en plus les Africains francophones à venir aux États-Unis plutôt qu'en France, comme j'ai dit. Alors, Angèle Kouemo, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent venir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut savoir en venant ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar ne se ramasse pas dans les rues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains valorisent le travail et que c'est un système qui est très libéral et très libertarian, très, très autonome, en ce sens que pour un Africain arrivant aux États-Unis, je pense que le gros avantage, c'est le fait qu'en arrivant ici, il ne s'attend pas à ce que le gouvernement va lui fournir de l'aide. Ça, c'est une grosse différence par rapport à la France où, lorsqu'on arrive en France, dans l'entendement commun de l'Africain, c'est les programmes sociaux, les logements sociaux, l'assistante sociale et tout ça. Aux États-Unis, ça n'existe presque pas. Mais au demeurant, puisqu'on est plus ou moins habitué à ne pas avoir d'assistante gouvernementale sérieuse, les Africains en général, lorsqu'ils arrivent ici, n'ont pas d'effort à percer. Le système éducatif est peut-être un peu cher, mais il est plus ou moins compréhensif et pragmatique. Donc c'est très facile pour un Africain, tous ceux que je connais qui arrivent ici, même avec le bac ou alors un diplôme universitaire, n'ont aucun problème à obtenir leur maîtrise et trouver un emploi ici. Donc il faut tout simplement se retrousser les manches. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut travailler dur.
Voilà, on va prendre un dernier auditeur au téléphone, Diallo Limo, qui nous appelle de Conakry. Bonsoir, Diallo.
Oui, bonsoir.
Voilà, en quelques secondes, votre réaction.
Bon, l'attrait de l'Amérique face aux jeunes Africains, d'abord, se matérialise parce qu'en Europe, le problème de l'emploi est très difficile là-bas. Et puis, l'aide de la loi américaine, bon, il y a beaucoup de terrorisme encore maintenant en Europe. Les gens fuient cela. Bon, l'Amérique, c'est devenu un Eldorado. Bon, il n'y a pas. Le paiement de la main-d'œuvre encore est plus fort aux États-Unis qu'en Europe.
Voilà, merci. Hein. Luc et Mayo, quel conseil donneriez-vous à ceux qui, malgré le fait que les États-Unis attirent de plus en plus, que conseilleriez-vous à ceux qui souhaitent toujours venir en France?
Les expériences sont individuelles. On ne peut pas, à partir d'un cas particulier, généraliser
la
situation. Ce que je peux dire de façon certaine, c'est qu'aujourd'hui, la croissance dont on parle sur le continent africain elle est réelle, mais elle profite davantage aux entreprises, aux multinationales qui sont sur place qu'aux Africains eux-mêmes. Et je pense que quel que soit le pays, quel que soit l'accueil qui est réservé aux Africains à l'extérieur, la vraie place qui est la nôtre se trouve sur le continent africain. Et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur allié que nos dirigeants peuvent avoir, c'est cette diaspora qui a à la fois la connaissance et parfois un peu d'argent pour pouvoir investir dans les projets. Ils le font à travers les transferts d'argent. Ils pourraient aujourd'hui le faire à travers les transferts de technologies, surtout les transferts de compétences. Et je pense qu'il est dommage que nos dirigeants obligent en quelque sorte les jeunes à vivre sans rêve, à avoir l'impression que leurs ambitions ne se réaliseront jamais ailleurs qu'en dehors du continent africain.
Voilà. Sogna, vous qui êtes au Sénégal, est-ce que c'est possible de réussir, de faire sa vie en Afrique?
Oui, c'est très possible, Diane, parce que je connais beaucoup de gens qui ont quitté leur vie à Paris ou à Madrid, ou bien même aux États-Unis, qui sont revenus au Sénégal pour investir dans un secteur. Il y a des secteurs il y a des marchés qui sont très porteurs au Sénégal. Il y a des secteurs qui se développent, comme l'agriculture. Il y a également le secteur des TIC et tout. Donc, il y a des jeunes qui viennent et qui investissent et qui créent d'autres emplois et qui arrivent à faire leur vie. J'en connais pas mal qui ont réussi à se faire un nom, qui ont réussi à créer un business qui est florissant et également à en faire profiter d'autres jeunes.
Merci Sogna. Merci Sogna. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Donc, Georges Léonard Sagnou assurait la production. John Lyndon était à la présentation. Martin assurait la mise en onde. Restez fidèles au programme de VOA Afrique et bienvenue à tous ceux qui sont en train de venir aux États-Unis.